Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
La Chine est devenue le premier consommateur d'énergie de la planète. En quoi consiste sa politique énergétique ? Comme tout État, sa sécurité énergétique est essentielle à son équilibre économique, politique et social. Comment la deuxième puissance du monde, avec 1,354 milliard d'habitants et une croissance autour de 8%, gère-t-elle sa politique énergétique ? Comment assure-t-elle son approvisionnement en énergie en fonction de sa taille et de sa croissance ? Avec nous aujourd'hui à Canal Académie pour présenter ce défi chinois de tous les jours, nous accueillons l'académicienne Marianne Bastide-Bruguière, sinologue et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors peut-être pour première question, à votre avis, de quelle vision sommes-nous prisonniers en France, dans la presse française, quand on évoque justement les problèmes énergétiques de la Chine? On dit souvent que la Chine s'octroie ou s'accapare l'essentiel, par exemple, du pétrole mondial.
C'est que, évidemment, la croissance de la Chine, qui a été de 10% par an dans les dernières années, et l'année dernière, c'était encore de 7,8%, a exigé de grosses ressources énergétiques. La Chine, dans les 8 dernières années, a multiplié par 2 ses importations de pétrole. Et évidemment, à l'extérieur, on impute à la Chine l'augmentation du prix du pétrole. Mais il faut savoir que dans l'appareil énergétique total de la Chine, elle ne dépend de l'extérieur que pour 10% de sa consommation. En réalité, ses ressources intérieures lui suffisent pour 90%. Alors, le pétrole est évidemment très sensible à tout un chacun parce qu'on a une voiture et qu'on remplit d'essence à la pompe et on voit le prix monter. Mais ce n'est qu'une très petite fraction dans l'ensemble énergétique chinois. Le système énergétique est organisé de façon très différente de ce qu'il est chez nous, parce qu'il est quand même dans un système autoritaire, gouverné par l'État, avec de très grosses compagnies d'État, à capitaux d'État, qui exécutent et font marcher le système énergétique, aussi bien en ce qui concerne le pétrole, le charbon, l'énergie hydroélectrique ou les énergies nouvelles.
Cette planification de la politique énergétique, elle obéit à certains rouages, vous pourriez nous les présenter ?
Oui, mais l'avantage, c'est qu'il y a quand même une planification. Bien entendu, ces très grosses compagnies sont en conflit permanent les unes avec les autres, et l'arbitrage entre elles est très difficile. D'autre part, dans une politique énergétique, il y a bien sûr l'exploitation des ressources, la distribution des ressources, mais cela va jusqu'à l'échelon local. Et à l'échelon local, on passe à des distributeurs qui dépendent des gouvernements locaux. Il y a toutes sortes d'intérêts à satisfaire. Donc tout cela est extrêmement compliqué. Mais malgré tout, il y a une vue d'ensemble.
Est-ce qu'il existe des entrepreneurs indépendants, justement, en matière d'exploitation énergétique ?
Depuis 3 ans, le gouvernement chinois a décidé de laisser les entrepreneurs privés entrer dans le domaine de l'énergie. Et donc, mais c'est essentiellement en Chine même, ça ne concerne pas encore les entreprises chinoises qui investissent à l'étranger dans les champs pétrolifères ou pour avoir des contrats de gaz, non. Mais en Chine même, il y a toute une série d'entreprises qui, soit pour la fourniture des équipements nécessaires au domaine énergétique, soit pour l'exploitation, entrent en ligne de compte. Et ceci a été fait parce qu'un des grands problèmes de la politique énergétique en Chine, comme d'ailleurs ailleurs, c'est la tarification. c'est de savoir comment on fixe les prix des différentes énergies et qu'est-ce qu'on met, on fait entrer en ligne de compte pour le calcul et à qui on fait payer. Est-ce que c'est aux consommateurs ou aux intermédiaires? Donc, tout ça est lié ensemble. Mais maintenant, je voudrais quand même parler de l'état des besoins et de l'état de l'appareil énergétique tel qu'il est maintenant.
Avoir un panorama...
Mais oui, pour savoir quels sont ressources. Actuellement les besoins, quelle est la consommation d'énergie actuelle et comment est-ce qu'on y pourvoit. Et ensuite, comment est-ce qu'on prévoit de continuer à y pourvoir dans l'avenir. Alors, la consommation d'énergie électrique, elle s'établit à 4,69 000 milliards de kilowattheures pour la fin 2011. C'est-à-dire, c'est 10 fois plus qu'en France. Bien que la population soit 20 fois plus nombreuse qu'en France. Et on prévoit évidemment que cette consommation va augmenter. Dans cette consommation, le charbon fournit 70 à 80%. Et le charbon, la Chine en a chez elle. Elle n'a absolument pas besoin d'en importer. Elle en importe, en fait, en particulier de Canton. On importe du charbon qui vient d'Australie parce que ça coûte moins cher de le faire venir d'Australie et qu'il y a aussi une qualité supérieure que de le faire venir du nord de la Chine. Mais enfin, normalement, elle n'a pas besoin d'en importer. Elle a encore découvert au Xinjiang, c'est-à-dire dans les provinces de l'Ouest, d'énormes gisements de charbon, 89 milliards de tonnes. Enfin, il y a des gisements énormes. Et donc, elle a des ressources de charbon tant qu'elle en veut.
Elle a, dans sa richesse, les ressources énergétiques en Chine sont faramineuses, pas seulement pour le charbon, il y en a d'autres. Globalement, on est quand même étonné de cette puissance. On a découvert récemment, effectivement, pour le gaz de schiste, pour des énergies tout à fait exploitables.
Et si vous voulez, pour ce qui est du charbon, le charbon actuellement couvre la plus grande partie des besoins et peut couvrir encore beaucoup plus. L'énergie hydroélectrique, elle n'exploite ce qu'elle pourrait exploiter qu'à moitié de la capacité. Et l'énergie hydroélectrique, actuellement, ça représente à peu près 25% de la consommation. Elle pourrait faire d'autres de grands barrages et elle le prévoit. Mais le problème pour l'énergie hydroélectrique, c'est que faire de nouveau des grands barrages ou même des petits barrages a des conséquences, d'une part sur les populations qu'il faut déplacer, et ce sont des problèmes considérables. Quand il faut déplacer un million de gens, c'est épouvantable. Ça a causé des scandales en Chine, et les populations. Et non seulement il y a les populations à déplacer, mais les conséquences écologiques, souvent, sont incontrôlables et imprévisibles. Et pour le très grand barrage qu'on a fait sur le Yangtze, il y a encore le barrage des Trois Gorges, il y a beaucoup de critiques. On est en train de construire plus haut sur le cours du Yangtze. On a construit d'autres barrages. Les Chinois ont construit aussi sur le Mekong 10 barrages. Sur le Haut-Brahmapoutre, ils en ont construit un sans prévenir les Indiens et ils en ont 3 qu'ils prévoient. Et là, ils ont quand même prévenu les Indiens. Et évidemment, la construction de ces barrages, les Indiens disent, on comprend bien que vous avez besoin des barrages, mais on voudrait savoir s'il n'y aura pas de conséquences en aval. Et donc les Indiens, et aussi en ce qui concerne le Mékong, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, et le Vietnam réclame des arrangements avec la Chine, parce que ça détruit quand même beaucoup de systèmes écologiques en aval. La Chine prévoit d'en construire encore aussi sur le fleuve jaune. Mais là aussi, les conséquences écologiques peuvent être terribles. Donc, l'utilisation plus systématique de potentiel hydroélectrique n'est pas absolument garantie. Et ça peut faire plus de mal que de bien.
Et est-ce que c'est toujours favorisé comme projet d'avenir, ou alors justement d'autres choix sont actuellement
certains
effectués?
Certains poussent en disant c'est une énergie propre, c'est exactement comme les verts chez nous. Mais d'autres disent faites attention parce que les conséquences écologiques peuvent être terribles.
Et irrémédiables.
Bon. Et d'autre part, les gouvernements locaux poussent parce que ça leur permet d'avoir du courant chez eux directement, et en particulier dans des régions très montagneuses qui sont très défavorisées. Mais en même temps, les défauts peuvent être pires que le remède. Donc, ça n'est pas l'option majeure.
D'accord.
Et je pense qu'il y aura beaucoup de discussions avant de construire de nouveau des très grands barrages. Probablement pour le Brahmapoutre, ça se fera, parce que ça concerne le Tibet et qu'on veut équiper le Tibet le mieux possible, et également la région du Qinghai, qui est la province au nord du Tibet, qui est très très pauvre et qui a besoin d'énergie.
Donc on voit bien comment cette politique énergétique est aussi liée à une politique de développement et d'harmonisation économique entre les différentes régions de la Chine.
Oui.
Là, vous avez évoqué le cas du charbon, le cas de l'hydroélectricité. Concernant le pétrole alors, le gaz.
Alors le pétrole, actuellement, la Chine exploite, avec ses propres ressources, elle tire à peu près 220 millions de tonnes. Donc, ça fait à peu près 45% de sa consommation.
Et là aussi, ses ressources en pétrole sont énormes.
Oui et non.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a les ressources continentales qui sont au Xinjiang, dans le nord-est aussi, et puis, mais qui ne sont pas si considérables. On a trouvé du gaz, et le gaz, il y a des oléoducs qui apportent le gaz et le pétrole du Xinjiang vers la région Est, mais quand même, les ressources continentales ne sont pas si considérables, et d'autre part, là aussi en Chine, il y a une opposition à l'exploitation à cause des dégâts écologiques. Une autre région où il y a du gaz et du pétrole importante, c'est l'Ordos, c'est-à-dire c'est dans la grande boucle du fleuve jaune, mais là aussi, c'est près de la Mongolie intérieure, c'est des régions très désertiques, très fragiles au point de vue écologique, et donc on hésite à pousser. Alors, une autre partie des ressources se trouve offshore. Un des grands champs d'exploitation offshore a d'abord été le delta du fleuve jaune, dans le golfe de Bohai, pas très loin de Pékin. Et là, en 2011, il y a eu des fuites épouvantables dont on n'a pas trop parlé. Et on a arrêté l'exploitation.
Ah, le gouvernement a pris la décision d'arrêter.
Oui, parce que ça avait pollué de façon effrayante toutes les terres à l'intérieur, les eaux, dans une région extrêmement peuplée. Actuellement, on a repris l'exploitation. Les compagnies sont supposées verser des indemnités aux gouvernements locaux, également pour un fonds de protection de l'environnement. Les populations, je crois qu'elles n'auront pas beaucoup d'argent. On a beaucoup hésité. Alors, on dit que maintenant, ces exploitations sont sûres. Mais enfin, quand même, ça a causé énormément de dégâts. Et puis, l'autre région où il y a aussi du pétrole offshore, c'est le sud, c'est la mer de la Chine du Sud. Et il y a une exploitation de pétrole et de gaz à peu près à 300 km de l'île de Hainan, qui existe déjà depuis au moins 15 ans, qui était exploitée d'abord par les Américains. Enfin, ça avait été concédé au British Petroleum, aux Anglais aussi. Et maintenant, c'est des compagnies chinoises qui exploitent. Et puis, tout récemment, On a mis en exploitation à 300 km de Hong Kong, au sud-est de Hong Kong, ce sont des exploitations très très profondes, à 1500 mètres de profondeur, par la compagnie chinoise. Ils ont une compagnie spéciale pour l'exploitation du offshore. Et là, les gisements sont énormes et la production, ça donne déjà 20 millions de tonnes. Et la visée, c'est de continuer ces exploitations de pétrole très, très profondes, parce que c'est moins dangereux pour la pollution dans un sens. Et d'autre part, la Chine a maintenant les techniques pour faire ces exploitations qui sont très compliquées technologiquement. Donc ce sont des ressources pour le futur. Mais malgré tout, comme c'est difficile à exploiter et qu'il y a des problèmes aussi politiques dans l'exploitation, la Chine souhaite avoir des approvisionnements extérieurs relativement sûrs et garantis, avec non seulement l'approvisionnement, mais l'acheminement également, parce que c'est un problème.
Un peu ce qu'avaient fait en leur temps les États-Unis pour se développer.
Oui, les États-Unis également avaient gardé leurs réserves dans le golfe du Mexique en particulier, et ils achetaient le pétrole des autres. Et la Chine, bon, elle pousse ses exploitations offshore, hein, mais elle souhaite aussi garantir des sources d'approvisionnement du Moyen-Orient et d'Asie centrale.
Alors, est-ce qu'elle privilégie les énergies renouvelables ?
Alors, sur les énergies renouvelables, elle est en avance sur tous les autres pays. Et depuis 3 ans, elle a poussé le photovoltaïque. Mais là, elle a rencontré, je pense que nos politiques doivent examiner l'expérience chinoise. Nos politiques en Europe. Parce qu'elle a poussé le photovoltaïque dans la région du Qinghai et du Xinjiang, notamment, où il y a 3000 heures d'ensoleillement par an. C'est rêvé. Elle arrive à en tirer seulement une très petite quantité d'électricité. Et d'autre part, ces sources ne sont pas du tout satisfaisantes parce que il faut la nuit, ça s'arrête. Et donc, quand vous alimentez des industries avec ça, il faut trouver quelque chose la nuit. Alors, le programme qu'on a maintenant en vue, c'est de faire marcher le photovoltaïque le jour dans le Qinghai, et la nuit, et cette énergie en surplus, parce que c'est plus que ce que peut consommer l'industrie locale, serait utilisée pour pomper de l'eau dans le fleuve jaune, et la nuit, on déverserait l'eau du fleuve jaune pour avoir de l'énergie hydroélectrique pour compléter l'alimentation du jour. Mais malgré tout, cet énorme investissement photovoltaïque donne un complément absolument minime. Enfin,
par rapport
aux investissements et par rapport aux besoins surtout. Alors localement, ça a permis de créer des industries dans la capitale du Qinghai, à Xining. Mais enfin,
Est-ce que les particuliers...
C'est pas grand-chose, hein. Ça donne 3 millions de kilowatts. Sur un total d'installations qui représente 1 milliard.
Est-ce que les particuliers chinois, pour leur résidence, ou
oui.
utilisent le photovoltaïque quand
on passe en train à travers la campagne chinoise, quand on se promène dans la campagne chinoise, on voit sur les toits du photovoltaïque. Et beaucoup de maisons rurales, maintenant, sont alimentées pour leur eau chaude, uniquement, enfin, par le photovoltaïque. Mais ce n'est pas grand-chose par rapport aux besoins. Et puis, ça ne permet pas de faire marcher la télévision la nuit. Parce que le problème, toujours, c'est de conserver l'énergie ou de la transporter. Non, un autre champ des énergies renouvelables, alors là, la Chine a fait un effort aussi très considérable, c'est l'éolien. Alors là, il y a deux endroits où on le pratique. D'une part, sur le continent, et ça c'est dans le nord, essentiellement en Mongolie intérieure, au Hebei, au Shandong, aussi dans les provinces du nord-est. Mais le plus spectaculaire, c'est l'éolien offshore qui sert à alimenter les industries de Shanghai. Et alors là, pour l'éolien, actuellement, il y a 47 millions de kilowatts installés et on veut en 2015 arriver à 100 millions de kilowatts. Mais pour l'éolien aussi, on a rencontré beaucoup de difficultés parce que là aussi, il faut pouvoir stocker l'électricité. D'autre part, le transfert d'électricité ne peut pas se faire par les réseaux ordinaires. Il faut créer un nouveau réseau. Quand on crée un nouveau réseau, on abîme l'environnement, on prend du terrain. Enfin, c'est des problèmes parce que les populations chinoises, surtout des régions de la côte est de la Chine, qui sont très évoluées et très au courant des thèses écologiques, ne veulent pas avoir des lignes à haute tension au-dessus de leur tête, hein, pas plus que nos vaches bretonnes, c'est la même chose. Donc, on a les éoliennes en mer, et puis pour les amener aux usines, on ne sait pas comment faire, où il y a beaucoup de procès, de difficultés, etc. Donc, et d'autre part, la fabrication... Alors, dans la fabrication même des éoliennes, les Chinois ont acquis des technologies qui surpassent ce qu'on a, même chez les Allemands qui sont les plus avancés, ou les Danois qui sont les plus avancés chez nous, ils ont des systèmes plus perfectionnés.
Oui, ils sont devenus le deuxième producteur d'énergie éolienne au monde et ils ont développé...
Ah non, ils sont le premier maintenant.
Maintenant, ils sont premiers. Oui. Et ils ont développé... leur propre technologie. Est-ce qu'ils la vendent ou est-ce qu'ils développent justement ces compétences à l'extérieur?
Ils essaient de la vendre autant qu'ils peuvent. Et ce qui est très remarquable, c'est qu'ils sont ils ont des éoliennes qui n'ont pas de très grands bras comme nos éoliennes. Ils ont des éoliennes qui ont des petits bras, qui sont donc beaucoup moins laides
visuellement.
Mais qui en même temps prennent mieux le vent et risquent moins aussi d'abîmer les oiseaux. Ils ont développé toutes sortes de techniques et très perfectionnées.
Dans le sens, en prenant compte des problèmes écologiques éventuellement.
Oui, des problèmes écologiques, des problèmes urbains, des problèmes d'environnement. Et puis aussi des coûts de production, d'arriver à produire efficacement au meilleur coût.
Donc là, on peut dire que la politique énergétique chinoise est novatrice.
Ah oui, hein, ah oui.
Complètement. Alors, il y a un grand domaine dont on n'a pas parlé sur le plan énergétique, c'est celui du nucléaire.
Oui.
Et celui du gaz aussi. Oui. Commençons peut-être par...
Qu'est-ce que vous voulez ?
Le gaz, allez.
Le gaz, il y a des ressources importantes en Chine même, de gaz naturel. Et d'autre part, l'accent maintenant est mis sur la fabrication de gaz synthétique à partir du charbon. Et il y a un très gros effort pour améliorer l'exploitation du charbon pour l'énergie en rendant, en supprimant les fumées, les poussières, le soufre et en transformant aussi le charbon en gaz. Donc là, il y a des, au point de vue technique,
là aussi.
Il y a des réalisations tout à fait remarquables. Mais le drame, c'est que 60% seulement de la production de charbon en Chine est modernisée, mécanisée. Il y a encore 40% de petites mines locales. Et alors là, qui sont très sales, c'est là où arrivent sans arrêt des accidents épouvantables. Alors l'idée, c'est de réorganiser toute la production de la partie nord de la Chine avec 14 énormes ensembles dans lesquels l'exploitation du charbon se ferait à ciel ouvert. Alors, je me demande comment ça sera plus écologique, mais enfin, ils promettent que ça sera plus écologique et avec des systèmes donc très perfectionnés. Donc, une partie du problème du gaz peut être résolue localement par le charbon. Mais il y a des réserves de gaz naturel très importantes, offshore et sur le continent. Et puis, il y a des importations de gaz très importantes de Russie et d'Asie centrale. Et également, pour faire venir le gaz du Moyen-Orient, la Chine vient de reprendre à son compte l'exploitation du port de Gwadar, qui se trouve tout à fait dans l'ouest du Pakistan, presque à la frontière de l'Iran. Et c'était le port de Singapour qui exploitait, et ça ne marchait pas du tout parce qu'il n'y a aucun débouché à ce port. Il n'y a pas de chemin de fer, de route. Et les Chinois donc le prennent, c'est en fait les compagnies pétrolières chinoises qui vont construire à la fois route et rail pour rejoindre l'autoroute du Karakoram qui arrive au Pakistan depuis le Tibet chinois et qui doit irriguer toute l'Asie centrale. Donc il y aurait une voie d'accès qui aidera beaucoup le Pakistan, qui permettra notamment de développer toute la province du Baloutchistan qui a toujours été d'une pauvreté épouvantable et qui rejoint l'Asie centrale et qui assurerait aussi des approvisionnements énergétiques dans la partie ouest de la Chine, parce que le problème aussi, c'est de répartir les approvisionnements entre les différentes parties du pays. Donc, il y a Gwadar au Pakistan, et en Birmanie, il y a le port de Sidwe. La Birmanie elle-même a des exploitations de pétrole et de gaz dans lesquelles les Chinois ont investi. Et les Chinois construisent, il y a déjà eu un bon morceau qui est construit, d'une part, un morceau de chemin de fer qui manque entre la ville de Lashio, qui est dans le nord de la Birmanie. C'est le fragment de chemin de fer qui manque entre là et la province chinoise du Yunnan. Et d'autre part, un oléoduc qui part du port de la mer pour aller jusqu'à Kunming au Yunnan, parce que la région du Yunnan est une des régions qui... Elle a déjà un oléoduc qui vient de Canton en réalité, mais elle est mal approvisionnée. Et pour développer cette région, on a besoin d'énergie. Donc il y a tout un réseau qui se tisse et ça permet évidemment d'éviter aux bateaux qui apportent le pétrole ou le gaz depuis l'Afrique, parce que les Chinois... investi énormément au Soudan. Ils ont une grande partie de leur pétrole qui vient d'Afrique. Ça évite de passer par les détroits de Malacca. On peut tout de suite rejoindre la Chine. Donc, il y a toute une stratégie d'aménagement des voies d'acheminement.
D'approvisionnement.
D'approvisionnement pour sécuriser ce qui vient de l'extérieur. Cet approvisionnement de l'extérieur est très diversifié parce qu'il y a une partie qui vient d'Iran, il y a à peu près 20% des importations qui viennent d'Iran, 30% d'Afrique, et puis 40% du Moyen-Orient, et puis encore la Russie, l'Asie centrale.
Comment le gouvernement chinois gère justement les problèmes de réchauffement climatique dus aux émissions de CO2 qui sont quand même supérieures à la moyenne mondiale, même si elles sont inférieures à celles des États-Unis, en Chine? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un rapport qui est fait entre le choix des énergies, de l'exploitation de certaines énergies, et puis ces problèmes qui engendrent vraiment des problèmes aussi de pollution grave? Parce que là, la population, comme le gouvernement, comme les entrepreneurs, en ont conscience. Alors, comment gère-t-on ces problèmes en Chine aujourd'hui?
On s'est fixé des objectifs. On s'est fixé comme objectif qu'en 2015, il fallait que par unité de produit national brut, on utilise 16% de moins d'énergie, 18% moins qu'on projette dans l'atmosphère, 18% de moins de dioxyde de carbone. On est déjà arrivé à des résultats sensibles. L'effort se poursuit, mais par exemple,
est-ce que c'est une priorité politique?
Ah oui, c'est une priorité. Simplement, cette priorité est négociée. C'est-à-dire qu'en principe, elle est imposée plus durement aux très grosses compagnies, mais les très grosses compagnies essaient d'y échapper. Mais malgré tout, comme elles dépendent de crédits du gouvernement, parce qu'elles ont des capitaux, mais il y a les prêts des banques et c'est quand même le gouvernement qui donne l'autorisation. Donc le gouvernement a moyen d'agir. Et puis, il y a tout ce qui est en dessous, sur quoi le gouvernement n'a pas toujours moyen d'agir. Il faut aller doucement. Par exemple, pour donner un exemple, dans les années 1990, beaucoup de grandes villes ont interdit les motos à essence. Et toujours aujourd'hui, dans beaucoup de villes chinoises, il n'y a pas de moto-essence. On a encouragé les gens à acheter des vélos électriques. Maintenant, à Shanghai, 40% des accidents mortels de la circulation sont dus aux vélos électriques parce que les gens roulent trop vite, que les passants ne les voient pas.
Et ne les entendent pas.
Parce qu'on ne les entend pas. Ce n'est pas qu'on entende un vélo, mais un vélo, on fait attention parce que ça bouge. Un vélo électrique, ça ne bouge pas, il est fixe dessus. Donc, moi-même, dans les villes chinoises, c'est ma terreur, le vélo électrique, parce que j'ai toujours peur de ne pas le voir. Donc, faut-il supprimer ça? D'autre part, on voulait augmenter aussi les impôts sur l'essence. Mais en même temps, ça porte atteinte à beaucoup de gens pour lesquels le transport est indispensable. Donc, la manière dont on gère ces questions-là de tarification, d'imposition...
Et la consommation des particuliers.
La consommation des particuliers, le tarif de l'électricité dans les maisons, par exemple, on les a augmentés. C'est très compliqué. Et aussi pour la construction, le gouvernement a passé une loi moyennant quoi, dorénavant, les constructions publiques de plus de 20 000 mètres carrés, c'est quand même beaucoup, seront assujetties à des normes d'économie d'énergie. Ce sera des bâtiments verts, il ne faudra pas que la consommation de chauffage dépasse, etc. D'autre part, on a prévu de reconstruire ou de transformer un certain nombre de logements anciens qui consomment énormément d'énergie. Mais les gens qui vivent dans des cages à lapins en béton et qui dépensent beaucoup d'énergie pour se chauffer l'hiver, vous ne pouvez pas leur augmenter leur consommation, leur prix d'électricité démesurément, sinon vous risquez des mouvements de population, etc. Donc tout ça est dans une négociation difficile, mais on fait des progrès. Il y a diffusion d'innovations technologiques qui permettent quand même d'améliorer les choses, et Il y a la volonté aussi de s'informer de ce qui se fait ailleurs et de trouver d'autres systèmes ailleurs.
Donc on a davantage intérêt à prendre des leçons de ces choix énergétiques.
On a intérêt beaucoup à coopérer et à regarder l'expérience qui s'est déroulée depuis 4-5 ans, parce que des bêtises ou des échecs qu'ont rencontrés les Chinois, on peut tirer leçon pour ne pas recommencer la même chose, pas recommencer des systèmes qui ne fonctionnent pas. Alors pour le nucléaire, malgré la catastrophe de Fukushima, les Chinois ont décidé de continuer. Actuellement, ils ont 15 centrales qui fonctionnent et ils viennent d'en mettre une de la quatrième génération en marche par des procédés, c'est un procédé qui est, pour lesquels ils sont arrivés à des résultats extraordinaires, c'est les neutrons rapides. Et ils veulent en mettre 26 en route d'ici 2015 ou 2020. Mais dans leur équipement énergétique total, le nucléaire, ce n'est quand même pas beaucoup, hein. Pour le moment, c'est à peu près 3%. Et ils arriveront à peut-être 5-6%, mais ça ne sera pas l'essentiel. L'essentiel restera toujours le charbon.
Pour l'instant, mais il y a une volonté d'investissement,
mais
de développement.
Ils continuent le nucléaire en disant que, bon, ils ont fait des vérifications de sécurité, etc. Et que c'est utile dans un certain nombre de régions où y a pas d'autres. Enfin, on a besoin de beaucoup d'énergie, en particulier dans l'est de la Chine. Des réacteurs qui se trouvent à Sanmen, au Zhejiang. Il y en a d'autres au Shandong aussi. Et c'est des régions où on n'a pas beaucoup d'autres sources d'énergie. Mais maintenant, ils sont capables de développer la technique par eux-mêmes. Et d'autre part, ils font des recherches sur la fusion nucléaire, qui est une technique sur laquelle on avait commencé à faire des recherches en 1958 en France, qui a l'avantage de ne pas poser ensuite de problème de stockage, parce que l'uranium reste. On garde toujours le même uranium, et il y a beaucoup moins de risques. Enfin, beaucoup d'ennuis de nos centrales n'existent pas. Et ces recherches sur la fusion nucléaire, elles sont continuées aux États-Unis par les militaires essentiellement. Et les Chinois les continuent. Et je pense que s'ils arrivent à trouver quelque chose dans ce domaine-là, ils l'exploiteront. Mais actuellement, les centrales qui sont capables de construire, elles sont concurrentes des nôtres. Elles sont même, dans un certain, jusqu'à un certain point, en avance de nous sur la technique nucléaire.
Donc il y a les fameux réacteurs à eau pressurisée, là, les EPR. C'est de ça que vous parliez, en fait.
La technique qu'ils ont utilisée, ce n'est pas celle que nous avions dans les EPR. C'est autre chose.
Encore autre chose. Oui. Donc là, il y a aussi un débat sur le transfert de technologie du nucléaire français au nucléaire chinois. Qui a pris un peu de place ces derniers temps dans la
presse française. Oui, mais ce qu'ils ont développé là comme dernière étape ne correspond pas à ce que nous avons, nous.
Oui.
Bien entendu, ils ont profité de ce qu'on leur a appris. Mais enfin, si nos gouvernements n'avaient pas arrêté un certain nombre des recherches, nous y serions aussi.
Alors,
simplement, notre avance maintenant, elle est moins considérable qu'elle n'était autrefois.
Donc globalement, la Chine assure sa maîtrise de ses propres ressources. Oui. Elle assure également des importations pour satisfaire ses besoins. Elle est indépendante, même si elle a des problèmes territoriaux avec ses voisins pour l'exploitation de certaines ressources.
Oui, mais là, en ce qui concerne les importations, elle souhaite une coopération internationale. si vous voulez, elle est très sensible à l'accusation qu'on a portée contre elle de faire monter les prix du pétrole. Et elle souhaite vraiment, d'une part pour la sécurité générale, parce que ça n'est pas qu'elle, c'est tout le monde est dans le même panier, hein. C'est d'avoir une stabilité des prix et une stabilité aussi des approvisionnements. Donc elle souhaite une coopération dans ce domaine. Et il y a beaucoup de régions en Afrique où les compagnies chinoises ont un partenariat avec des compagnies étrangères, hein.
Donc cette volonté de,
c'est pas exclusif,
de coopération pourrait aller jusqu'à porter ça au niveau international avec des accords internationaux.
Ah oui, non, mais elle a des
donc
accords
là, non, mais je veux dire, ce serait un acteur clé qui promeut ce type de coopération de façon plus équilibrée ou plus juste que ce qui s'est développé jusqu'à présent. Donc.
Certainement.
Ouais, donc là encore, on a une politique novatrice, y compris dans son exploitation.
Oui, oui, oui. Parce que la conscience mûrit. Hein, et elle est. Le gouvernement chinois, les experts chinois sont parfaitement conscients que ce sont des problèmes globaux et qui ne peuvent être traités que globalement.
Est-ce que, pour terminer, est-ce que cette vision des problèmes est partagée à part égale entre les habitants, les particuliers, on va dire, les entrepreneurs et les grandes entreprises, et puis le gouvernement ?
Ben, les grandes entreprises et les entrepreneurs voient d'abord leur profit. Donc, le gouvernement est obligé de faire de l'éducation. Le public est plutôt pour la coopération. Il n'est pas exclusif parce que il voit bien que les problèmes sont généraux.
Est-ce qu'il y a
des
oppositions, c'est-à-dire vraiment une opposition ferme à certaines énergies comme le nucléaire ? Est-ce qu'il y a l'expression d'un refus ?
Opposition au nucléaire, individuellement, il peut y avoir des gens qui sont opposés. Mais il n'y a pas du tout ce que nous avons chez nous, de gens qui se coucheraient sur les rails de chemin de fer pour empêcher des déchets nucléaires de passer. Pour le moment, non. Localement, quand on essaie d'établir une usine pétrochimique à un certain endroit, alors là, les gens s'asseyent sur les rails de chemin de fer et disent « mettez-la à côté chez le voisin hein », certainement. Mais la hantise du nucléaire, elle n'existe pas comme elle a été, au point où elle a été diffusée dans le public européen par les Verts et les écologistes. On n'en est pas là, non.
Il y a une acceptation.
De toute façon, le nucléaire est beaucoup plus limité en Chine. Il y a deux réacteurs nucléaires que de. Il y en a 15, je vous dis, c'est pas beaucoup, hein, sur un immense territoire. Alors on veut en mettre au Xinjiang, mais dans des régions qui sont très loin, où il n'y a pas beaucoup de gens. Alors localement, les gens sont un peu inquiets pour leur bétail, etc. Il n'y a pas cette opposition aussi virulente que chez nous.
Alors, est-ce que, pour conclure, est-ce que les questions énergétiques posent un problème à la Chine pour son développement ?
Est-ce
qu'elle réussit ou pas ?
Non, elle a les moyens. Jusqu'à présent, elle a réussi. Et de façon extraordinaire. Parce que ça, quand même, elle a été obligée d'augmenter son potentiel énergétique de façon étonnante. Alors, en 2011, c'est vrai, il y a eu des coupures d'électricité. Et c'est là où ils ont remis en route un certain nombre de choses, parce qu'on avait baissé les investissements sur le charbon et on l'avait augmenté sur l'éolien. Mais les éoliennes, je vous ai dit, on n'arrivait pas à apporter leur électricité. Donc, on a remis de l'argent dans le charbon. Parce que le charbon, on est sûr que l'électricité arrive. Oui. Donc, si vous voulez, il y a des coupures d'électricité, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup d'électricité, même pas du tout. Ça n'est pas rose. Hein. Mais il y a un énorme progrès, il y a une conscience des problèmes et un effort pour un traitement rationnel et scientifique et toujours à l'aguet de l'innovation et de solutions pratiques, efficaces et soucieuses de l'environnement. Parce que la question de l'environnement, quand même, pendant un mois, là, au mois de janvier, à Pékin, on ne pouvait pas sortir dehors.
À cause de la pollution atmosphérique.
À cause de la pollution atmosphérique.
Et à cause du charbon de bois, des particuliers. On n'a pas évoqué.
On a dit que c'était le charbon de bois des particuliers. En réalité, il y a des effets de vent qui viennent de Mongolie. Ça stagne sur Pékin. Et il y a du sable hein, dedans aussi. Mais c'était très pollué. Hein. Et c'était des usines loin de Pékin. Donc il faut que toutes les usines deviennent propres, même celles qui sont à 500 km. Et ça, la conscience, c'est beaucoup plus aiguë et on est prêt à mettre de l'argent dedans. Et on a mis de l'argent dedans.
Une conscience plus aiguë sur place, oui. Une volonté politique assez forte, oui. Une maîtrise des questions énergétiques qui est positive pour oui. l'instant. Donc on peut penser que la maîtrise de tout ça va permettre à nouveau, disons, le fameux rebond de l'économie chinoise qui est en route devrait justement contribuer à maintenir cette croissance et à la développer davantage.
Oui, mais ça, le développement des ressources énergétiques, ils ont autorisé l'exploitation des gaz de schiste et des huiles de schiste, hein.
Là aussi,
ne recule devant rien.
Oui.
mais il y a toujours des à-coups, parce qu'il y a des abus, il y a des gens qui veulent aller trop vite et il y a des résultats incontrôlés. Hein. Le contrôle scientifique, le contrôle sanitaire laisse toujours à désirer. Puis il y a toujours les accommodements parce que ça rapporte.
Madame Bastide Bruguière, merci pour cet éclairage sur la politique énergétique de la Chine, sur son système énergétique, sur ses ressources faramineuses et surtout sur la volonté politique du gouvernement chinois d'instaurer une politique énergétique soucieuse de l'environnement. Et vous nous avez expliqué que cette prise de conscience concernait aussi les particuliers chinois.
Oui.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci.